Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Jérémie, chapitre 2, verset 13. Voilà ce qu'on peut lire ensemble. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Juste ce verset pour nous ce matin. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà le reproche que Dieu va faire au travers de son prophète Jérémie au peuple d'Israël. Mon peuple a commis un double péché. Donc deux fois, double. Premièrement, parce qu'ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Deuxièmement, pour se creuser des citernes crevassées. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Voyez-vous, quand on lit la Bible et quand on regarde bien, on se rend compte que en cas d'abandon, c'est jamais Dieu qui abandonne. C'est toujours l'homme. Dieu nous fait des promesses. Dans Deutéronome 31:6, il est dit que Dieu ne nous délaissera pas, ne t'abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera jamais. Même à un autre moment, Dieu va dire, quand bien même un homme, une mère, serait capable d'abandonner ses enfants, moi, je ne vous abandonnerai pas, dit l'Éternel. Dieu ne nous abandonnera jamais. Et que personne ce matin dise, mais moi, Dieu m'a abandonné, je ne vous crois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, celui dont il est question dans cette Bible, celui dont il est question dans cette parole, c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Quand il nous donne la promesse de ne pas nous abandonner, sa promesse est vraie. Quand Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », sa promesse est vraie. Il n'est pas celui qui dit « Bon, là maintenant je ne suis plus avec toi ». Il sera toujours avec nous. Maintenant, nous, est-ce qu'on sera toujours avec lui? C'est pareil avec la fidélité. Peut-être est-ce qu'on le comprendra mieux en utilisant le mot « fidèle ». Dieu est fidèle. Il sera à notre égard toujours fidèle. Mais nous, est-ce que nous serons toujours fidèles à Dieu ou est-ce que nous lui serons infidèles? Dieu nous aimera toujours, mais nous, est-ce que nous l'aimerons toujours? Dieu ne nous abandonnera jamais. Et nous, est-ce que nous l'abandonnerons un jour? Alors on peut faire comme Pierre et dire, Seigneur, tous abandonneront, tous peut-être vont t'abandonner. Mais moi, je t'abandonnerai pas. Les autres peut-être, mais moi non. Peut-être quelqu'un ce matin pourrait être comme Pierre en disant, oui, ça je veux bien le croire, que le frère un tel soit capable d'abandonner le Seigneur, mais moi jamais. C'est facile à dire. Et Pierre a pu le dire facilement. Et même quand Jésus va le reprendre en disant, Pierre, tu sais pas ce que tu dis. Pierre va répondre à Jésus, à Dieu ne plaise. Jésus, t'as rien compris. Moi, j'ai dit, je ne t'abandonnerai jamais, mais Pierre. Avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras déjà renié trois fois. Et c'est vrai qu'il faut être prudent dans ce qu'on va dire. Mais qu'on puisse dire ce soir, Seigneur, aide-moi, que jamais je délaisse tes voies, que jamais je ne t'abandonne, que jamais je ne m'éloigne de ton chemin. Donne-moi la force de rester debout. Donne-moi la force de marcher avec toi. Donne-moi la force d'être fidèle et d'aller jusqu'au bout. Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Et nous, que nous soyons de ceux qui n'abandonnent pas la foi, qui n'abandonnent pas notre engagement, notre service, ce que nous avons pris comme résolution avec le Seigneur, que nous puissions garder nos engagements, nos promesses. Ce peuple a commis un double péché, va dire l'Éternel, au travers de Jérémie, parce qu'ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive. Moi qui suis la source d'eau vive. Ce qui sous-entend, ils m'ont abandonné pour aller chercher ailleurs. pour aller chercher autre chose, pour aller chercher une autre source, pour aller chercher une autre eau. Mais moi, je suis la source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, et le contexte nous le montre, ils m'ont abandonné pour se tourner vers d'autres dieux. Ils m'ont abandonné pour mettre leur confiance ailleurs. Par amour du présent siècle, Démas m'a abandonné, dira l'apôtre Paul. Il m'a abandonné par amour du siècle présent, plutôt que d'aimer Dieu, aimer le siècle présent, aimer le monde. L'apôtre Jacques va jusqu'à dire « adultère que vous êtes ». Quand on aime le monde mais au lieu d'aimer Dieu, on est infidèle à Dieu. Et l'infidélité, ça s'appelle aussi l'adultère. Et Jacques va jusqu'à dire « adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Quand on aime le monde, quand on se tourne et quand on met notre espoir dans les choses d'en bas, on est infidèle à Dieu. Ils m'ont abandonné. Ils ont préféré chercher ailleurs le secours. Tout comme le peuple d'Israël, on le voit souvent au temps, des rois et des chroniques. C'est un petit royaume, Israël. Jérusalem, c'est pas une grosse ville, il n'y a pas beaucoup de puissance à Jérusalem, par rapport aux Syriens, par rapport aux Assyriens, par rapport aux Égyptiens. Et bien souvent, il y a des envahisseurs qui viennent et leur seule force qu'ils ont, c'est Dieu. Et combien de miracles n'a-t-il pas fallu pour que Jérusalem soit délivrée de la main des envahisseurs? Et pourtant, bien des rois d'Israël ont eu la tentation d'aller chercher leur secours en Égypte. Puisqu'il y avait les armées du nord qui les attaquaient, ils sont allés vers le sud en Égypte pour dire « Venez nous aider, on nous attaque par le nord, venez nous aider, nous avons besoin de vos chars, nous avons besoin de vos chevaux, nous avons besoin de votre cavalerie, nous avons besoin de votre armée parce que sinon on n'y arrivera pas. » Et combien de prophètes dont Jérémie a dû dire au roi « Ne te confie pas dans l'Égypte, va pas chercher ton secours en Égypte, chercher son secours en Égypte, c'est comme ce s'appuyer sur un roseau brisé. » Je ne sais pas si vous êtes déjà appuyé sur un roseau. Non, mais un roseau qui est là, cassé, mais ça passe au travers de notre main. Hein? Ah oui, c'est ça. Et aller chercher du secours en Égypte, c'est s'appuyer sur un roseau qui va te faire mal. Tu ne vas pas trouver de secours, tu ne vas pas trouver d'appui. Ça va se retourner contre toi. Aller chercher du secours en Égypte, aller chercher du secours dans le monde, aller chercher du secours dans la solution des hommes, ça se retourne contre vous un jour ou l'autre, alors que Dieu est là. Moi qui suis la vraie, l'unique, la source d'eau vive, ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi qui suis le seul remède, la seule solution. Ne cherchez pas ailleurs, le secours est en Dieu. N'allez pas chercher ailleurs, le remède est en lui. Il est le secours, il est la solution. Il est la source d'eau vive. Oh, c'est en lui, mes amis, mes frères et sœurs, en lui seul, que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Même si ça tarde à venir, c'est en lui que vous trouverez le secours, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est la source d'eau vive. Oh, qu'on puisse être comme dans le psaume 42, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif. La soif du Dieu vivant. Et nous savons que dans notre soif, celui qui va étancher notre soif, celui qui va venir répondre à notre soif, c'est Dieu. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un chef religieux, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas là le secours. Le secours, il est en Dieu. C'est auprès de toi, psaume 36,9, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière. Nous voyons la lumière. Auprès de toi seul est la source de la vie. Jérémie va donc dire un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis pourtant la source d'eau vive. Deuxième péché, pour creuser des citernes crevassées. D'un côté, il y a une source. Il y a une source d'eau vive. On comprend l'image. Une source d'eau vive, c'est là comme un torrent, c'est de l'eau fraîche, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau abondante. Là, on sera toujours, notre soif là sera toujours, on n'aura jamais soif, on va dire ça comme ça. Hein. On n'aura jamais soif auprès de cette source, c'est une source d'eau vive qui ne tarira jamais. toutes sortes d'images qu'on trouve dans la Bible concernant cette source d'eau vive que nous avons en Jésus. Oui, en Jésus. Jésus est le rocher de Dieu. Voilà, attention aux images là. On est avec Moïse, souvenez-vous, dans le désert. Moïse est là avec le peuple. Ils sont dans le désert, ils ont soif et le peuple est en train de murmurer et de dire à Moïse, on va tous mourir de soif. Et Moïse va vers le rocher que Dieu lui a montré. Il a frappé le rocher et de ce rocher est sorti de l'eau. Qu'est-ce qu'avait fait le rocher pour être frappé? Moïse, pourquoi tu frappes un rocher? Il n'a rien fait. Parce que c'est comme ça que Dieu avait dit. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous est présenté comme ce rocher qui a été frappé de Dieu. À la croix du calvaire, Jésus a été frappé. Il ne le méritait pas, mais il a été frappé pour que nous ne mourions pas. Comme le peuple d'Israël allait mourir de soif, parce que Jésus a été frappé, parce qu'il est mort sous la croix du calvaire. Eh bien, par son sacrifice, de lui, en lui, se trouve une source d'eau vive. Si quelqu'un a soif, dira Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive, parce qu'il est ce rocher frappé de Dieu, et de lui maintenant est la source d'eau vive dont nous avons besoin pour vivre et pour ne pas mourir. D'un côté, il y a cette source d'eau vive. De l'autre côté, il y a une citerne. Une citerne, et en plus une citerne crevassée. Une citerne par rapport à une source, c'est pas la même chose. Comment ça marche une citerne? Ben, une citerne, c'est comme un puits, mais là, c'est pas un puits qui va chercher de l'eau en profondeur, c'est un puits qui garde de l'eau de pluie. Faut que je fasse attention, là, faut que j'articule. Ça garde de l'eau de pluie, une citerne qui est là juste pour récupérer l'eau qui tombe du ciel, et puis on garde cette eau précieusement, surtout dans des pays comme Israël, où l'eau est denrée rare, eh bien on garde cette eau, et cette eau est là. Et puis comme ça, quand on a besoin d'eau, elle est là. D'un côté, il y a de l'eau abondante, de l'eau fraîche, et de l'autre côté, il y a de l'eau de puits, de l'eau qui est là en train de stagner dans cette citerne, et en plus, une citerne crevassée. On comprend pourquoi Dieu va reprocher à son peuple, par Jérémie, c'est un péché, que d'abandonner la source d'eau vive pour en plus aller vers cette citerne et une citerne crevassée. Maintenant, en prenant cette image-là, on voit aussi dans la Bible que la bénédiction de Dieu est souvent comparée à une pluie, comme la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie, eh bien, nous sommes invités à la garder, à garder cette eau dans une citerne. Peut-être quelqu'un dira ce matin, mais si j'ai bien compris, j'ai pas besoin de citerne. Si j'ai bien compris, j'ai pas besoin de puits, j'ai pas besoin de citerne. Moi, je suis auprès de la source, je suis dans la présence de Dieu, auprès de ce torrent et de cette source d'eau vive. Oui, c'est vrai. Mais entre vous et moi, vous êtes dans la présence de Dieu à 100%, 24 heures sur 24? Est-ce que quand vous êtes au travail et que... pas moi, votre patron est sur votre dos, ça se dit ça, quand un client est mécontent, ou quand ça se passe mal, ou quand votre voisin vient vous chicaner, est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu? Est-ce que là vous dites, oui, je suis auprès de la source? C'est plus la même chose là. On a des temps, oui, on a des temps, on a des moments. On aimerait être là 24 heures sur 24, dans la présence de Dieu sur la montagne. Mais il y a besoin des fois de redescendre de la montagne. Et la vie est comme ça. Une maman, je sais que ma femme, elle a bien des soucis des fois. Quand le matin, elle veut prier, là, elle est là, dans la présence de Dieu, on est bien. Puis il y a une fille qui se lève, et puis qui vient, et puis qui va aux toilettes, puis après, il y a besoin d'avoir une culotte propre, et puis des chaussettes, et puis, enfin, des bas, pardon. Et puis, toutes sortes d'affaires. Et des fois, il y a la réalité du monde, là, qui vient nous redescendre de la montagne. Hop, c'est fini, maintenant. Il y a des besoins, il y a des responsabilités et il faut s'occuper des choses d'en bas aussi. On ne peut pas fuir ces choses et dire, moi je reste sur ma montagne, j'oublie ma famille, j'oublie mon travail, j'oublie mes responsabilités. On a nos responsabilités et on a besoin d'y veiller aussi. Mais alors, si on n'a pas de citerne, quand on est près du rocher, on a l'eau, mais quand on n'y est plus parce qu'on est là dans les affaires de la vie, que nous reste-t-il? Nous sommes appelés, et je vais utiliser cette image, à garder en nous ce que nous avons reçu dans la présence de Dieu. Quand Moïse est redescendu de la montagne, il était là dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu était là quand il est redescendu. La gloire de Dieu était sur son visage, à tel point qu'il a même dû mettre un voile, parce que c'était éblouissant de gloire. Il avait gardé quelque chose de ce qui s'était passé sur la montagne. Il n'était plus sur la montagne, il était redescendu de la montagne, il était maintenant dans la dure réalité des choses d'en bas, avec un peuple qui avait du mal à comprendre les choses de Dieu, mais il avait gardé de la gloire qu'il avait expérimentée quand il était sur le haut de la montagne. Dieu est celui qui nous envoie, qui nous donne de cette eau fraîche, et il nous demande de garder. L'apôtre Paul va dire à Timothée, 2 Timothée 1,14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » L'apôtre Paul va dire à Timothée, « Garde le bon dépôt. Ce que tu as reçu de Dieu, garde-le. » Et même, dans le même contexte, il dira à Timothée, « Veille, veille-y avec une entière persévérance. Garde le bon dépôt. » Dites-moi, est-ce que Dieu vous a déjà donné quelque chose? Est-ce que vous avez reçu de Dieu? Est-ce que vous avez connu des temps de gloire, de bénédiction, où on est là dans la présence de Dieu? On est tellement bien dans la présence de Dieu qu'on n'a pas envie de partir, comme Pierre hein, qui voulait monter cette tente sur la montagne de la Transfiguration, en disant « on est bien là, on va rester, on va s'installer ici, mais il faudra redescendre ». Mais est-ce que vous avez connu ces temps où le Seigneur vous a visité, que ce soit chez vous, tranquillement, dans le secret, dans le secret de votre lieu de prière, que ce soit dans une réunion, que ce soit dans l'église, que ce soit ailleurs? Avoir connu ces temps où le Seigneur nous visite, nous fait du bien, nous rafraîchit, nous renouvelle. Et est-ce qu'on garde ces choses-là? La Bible nous invite, et c'est le propos de ma prédication ce matin, garde ces choses. Veille sur toi-même. Veille à cela. Garde. Ne gaspille pas. Ne perds pas. Que ta citerne ne soit pas crevassée. Que ta citerne garde le dépôt de Dieu, la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu. Il y a une histoire qui s'est passée dans le livre des Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 3. Le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom sont partis ensemble pour affronter l'adversaire. Il y avait là un ennemi qui venait contre Israël et Juda. Et alors ils sont partis ensemble pour affronter, mais voilà que quand ils sont partis, ils sont arrivés dans un lieu désert, et il nous dit, 2 Rois 3:9, ils manquèrent d'eau. Ils sont arrivés là, prêts à combattre, mais voilà que maintenant, ils n'ont pas fait attention, ils n'ont plus d'eau. Plus d'eau pour eux, plus d'eau pour les bêtes, et ça, c'est avant la guerre, c'est avant d'affronter l'armée ennemie. Ils sont là, en fait, pour aller attaquer une armée, mais ils vont mourir de soif. Ils sont là dans le désert, ils se sont laissés comme entraînés dans le désert parce qu'ils étaient en train de les poursuivre, et voilà qu'ils manquent d'eau. Alors on appelle Élisée le prophète, on dit « Élisée, il faut faire quelque chose ». Élisée dit « Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec tel roi, mais bon, parce qu'il y a un bon roi parmi vous, eh bien, on va chercher la volonté de Dieu », et c'est ce qu'il fait, il va prophétiser. Et il va dire à tout le peuple, à toute l'armée, il va leur dire, voilà, ainsi parle l'Éternel, 2 Rois 3:16, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Voilà la parole de l'Éternel, la réponse de l'homme de Dieu. Voilà ce que le prophète va dire de la part de Dieu. Creusez des fosses. On dit des fosses en québécois? Faites des trous. Faites des fosses. Pourquoi faire des fosses? Comment ça faire des fosses? Certains vont dire, ça y est, c'est une bien triste nouvelle que nous enseigne l'homme de Dieu. Il faut faire des fosses pour notre propre sépulture. C'est pas ça. Ben oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut creuser des fosses? On est en train de mourir de soif. Quelle idée de faire des trous en plein désert, il n'y a pas d'eau nulle part, et l'homme de Dieu dit, creusez des fosses. Ça ressemble un petit peu à un homme qui s'appelait Noé, qui est en train de construire un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau. Quelle drôle d'idée. Creuser, mais on est fatigué, on est en train de mourir de soif. Et l'homme de Dieu dit de la part de l'Éternel, creusez des fosses, faites des trous. Ah bon, pourquoi? Il va pleuvoir? Non. Vous n'apercevrez pas de vent. Parce que le vent annonce la pluie. Quand le vent se lève en Israël, ça veut dire que les nuages vont bouger. S'il y a un peu de vent, ça va faire bouger les nuages. Et là, l'homme de Dieu dit, non, il n'y aura pas de vent. Il n'y aura aucun signe qui va venir vous encourager et vous dire que l'eau est là et qu'elle arrive. Vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie. Mais l'eau sera là. Seigneur, j'aurais bien voulu quand même avoir ce bulletin météo, pluie abondante demain. Non, pas de vent, pas de pluie, pas de signe. Pas de quoi un petit encouragement là, Seigneur, pour que je puisse quand même croire que ça vient vraiment de toi. Le Seigneur dit, si vraiment tu crois que ça vient de moi, creuse une fosse, fais un trou, vas-y. Seigneur, mais il n'y a pas de vent. Les cieux, il n'y a pas de nuages, il n'y a aucun signe, il n'y a aucun signe météorologique pour nous indiquer qu'il va pleuvoir. Il n'y a pas de rivière dans le coin, mais comment, Seigneur, de l'eau? Creuse une fosse. Et ils auront de l'eau à la mesure de leur fosse. Tu creuses une petite fosse, ils vont avoir un peu d'eau. Tu creuses une grande fosse, tu vas avoir une piscine. Le même prophète, souvenez, il avait dit un jour à cette veuve, va chercher des vases vides, et puis tu les rempliras d'huile avec le peu d'huile que tu as dans ta fiole. Et puis l'huile, il y a eu un miracle, l'huile a coulé jusqu'à remplir tous les vases. Quand il n'y a eu plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Et là, on est dans le même principe. L'eau qu'ils vont avoir va dépendre du nombre de fosses et de la taille des fosses qu'ils vont construire. Mais creuse une fosse, parce que l'eau viendra. Imaginez s'ils avaient creusé aucune fosse, le lendemain l'eau serait venue, elle aurait rafraîchi, ça les aurait rafraîchis, et se dire ça fait du bien, il y a de l'eau qui passe, parce que bon, l'eau n'est pas venue d'en haut. C'est bien ce qu'on comprend en lisant ce passage. Cette vallée se remplira d'eau. C'est pas trop comment, si c'est de l'eau qui a coulé et qui est venue comme un torrent, mais un torrent qui fait juste que passer, puis après on ne voit plus. Cette eau est venue par le sol, je ne sais pas comment, c'est venu par une rosée, enfin qu'importe. De l'eau était là. Mais s'il n'y a pas de fosse, cette eau, après, elle disparaît. Alors ils auraient pu connaître un temps de rafraîchissement et être là en disant, on est bien, ça fait du bien, on est rafraîchi. Mais on a toujours soif après quand le soleil frappe. Parce que ça s'est passé le matin alors que le soleil ne frappait pas encore. Mais après, quand le soleil va frapper fort, mourir de soif, tout en ayant connu un temps de rafraîchissement quelque temps plus tôt. Non, pour ne pas mourir de soif, il faut creuser une fosse. Et une fosse qui garde l'eau. Creuse une fosse qui garde l'eau, afin que cette eau te soit salutaire au moment où le soleil sera là et que tout le monde boive, reprenne des forces et vive. Ils se sont creusés une citerne, nous dit Jérémie, une citerne crevassée, qui ne retient pas l'eau. J'imagine un peu ce que ça peut être une citerne crevassée en Israël, la qualité de l'eau qu'il peut y avoir au fond. Je ne sais pas si ça vous donne envie de voir de cette eau dans cette citerne crevassée. Crevassée, donc ça veut dire qu'il y a des fuites, il y a des crevasses, certainement un peu de vase ou de boue dans le fond de la citerne. Enfin, quand on a soif et quand on n'a rien d'autre, on boit ça. Puis quand on meurt de soif, on est bien content d'avoir cette eau sale. Non? Ouais. Mais si on peut avoir mieux, est-ce que vous allez vous contenter d'un peu d'eau sale? D'un peu, petite flaque là, qui est au fond de la citerne? Creusons des fosses. Mais pas des citernes crevassées. Des citernes qui gardent le bon dépôt que Dieu nous donne. Ne gaspillons pas la bénédiction de Dieu. Je sais qu'au Québec, on parle beaucoup de l'eau, ces temps-ci. Et qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, même que bientôt, on va payer l'eau. Il n'y a pas quelque chose comme ça, il y aura des compteurs et toutes sortes d'affaires. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Au Québec, il y en a de l'eau, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a de l'eau. En Afrique, ce n'est pas le cas. À certains endroits d'Afrique, si on va dans la zone sahélienne, là, il y a beaucoup de besoins. Et quand il manque, hein, dans le sud du Sahara, quand on manque d'eau, ben on fait attention à l'eau. Ils sont capables de se laver avec un verre d'eau. Vous êtes capable, vous? Moi, je ne suis pas capable. Capable de vivre avec peu d'eau, et on fait avec. Prends l'habitude, parce qu'on économise, parce qu'on sait que c'est important. Ben voyez-vous, la bénédiction de Dieu, même si ça coule comme un torrent, ben qu'on ne soit pas de ceux qui négligent, qui gaspillent, et qui viennent en disant, de toute façon, c'est pas grave, je reviendrai dimanche prochain, il y en aura encore. Mais gaspillons pas la bénédiction de Dieu. Même si cette grâce, cette bonté se renouvelle pour nous chaque matin, même si jour après jour, dimanche après dimanche, ou chaque matin, dans le secret de votre chambre, le Seigneur veut vous bénir, eh bien ne gaspillez pas ce que Dieu vous a donné. Il y a maintenant un autre principe qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est celui d'être rempli. Soyez rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut remplir une citerne crevassée? Est-ce qu'on peut remplir un verre qui a une fuite, une piscine qui a un trou? On peut toujours mettre de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau encore. Ce sera jamais plein. Ce sera jamais rempli. Pourquoi? Parce que ça fuit. Parce qu'il y a une fuite. Parce qu'il y a une crevasse. Parce qu'il ne garde pas l'eau. Et de la même manière dans votre vie, comment être rempli s'il y a des fuites? Comment être rempli s'il y a des crevasses? Comment dire, mais j'ai pas toute la plénitude, je sens comme une insatisfaction, alors j'en veux plus. Et certains vont s'approcher de Dieu en disant, Seigneur, j'en ai pas assez, je suis insatisfait, plus de toi, plus de toi, plus encore, plus encore. Mais s'il n'y avait pas de fuite dans ta vie, ça déborderait déjà depuis longtemps. Est-ce qu'on comprend ça? On vient souvent devant Dieu en disant, Seigneur, je veux plus, donne-moi, 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 donne-moi encore. Et s'il y a une fuite? La première fois, j'étais au Québec depuis pas longtemps, première fois que je fais le plein avec la voiture, c'était la Windstar, là. Alors bon, bah, je sais prendre le pistolet, on arrive à comprendre comment ça marche, on y va, puis on attend, on voit le compteur qui tourne, on dit bon, puis au bout d'un moment, je dis mais ça tourne encore, il y a un problème, je vous assure, hein, je me suis pensé. Je me suis dit, il y a une fuite là, c'est pas possible. Là. Non, ben, il paraît que c'est comme ça, les voitures américaines, ça a des gros réservoirs. Et quand on met, je sais pas combien, on met plus de 90 litres d'essence, on se dit, bon, ben, alors, en France, moi, ma voiture, j'avais 30 litres. Hein, alors là, j'arrive 40, 50, 60. Je dis, non, je suis en train d'arroser la station, là. Quand il y a une fuite, ça remplit pas. Quand il y a une fuite, ça remplit pas. Et si dans notre vie, il y a une fuite, on pourra demander, toujours demander. Et on ne sera jamais rempli. Et jamais être rempli, ça veut dire jamais être satisfait. Jamais avoir cette satisfaction et cette joie de dire, Seigneur, je suis heureux, parce que j'ai tout en toi. Et on dira, Seigneur, il me manque encore. Là, c'est pas plein. Il y a encore de la place, il manque encore. Bien, si tu veux être rempli, que ta vie soit là dans la plénitude de Dieu, être là dans la satisfaction de dire « mais j'ai tout reçu de lui », eh bien, commençons par colmater les fuites, commençons par s'occuper des fuites et des crevasses, et de dire « voyons voir dans ma vie ce qui peut empêcher, ce qui peut laisser la bénédiction partir ». L'apôtre Paul va dire qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Je pourrais donner toutes sortes d'exemples de ce qui peut, dans notre vie, être là, comme quelque chose qui va laisser la bénédiction de Dieu partir. Évidemment, il y a le péché, si on a là dans notre vie des choses qui ne sont pas en règle, qui ne sont pas conformes, et on se complaît dans ces choses-là, comment la bénédiction de Dieu, elle peut cohabiter là? Ça, s'il y a une anomalie, il peut y avoir toutes sortes de choses, de problèmes. Mais maintenant, j'aimerais dire qu'il peut y avoir des fuites, même s'il n'y a pas de problème. Même s'il n'y a pas de péché, même si votre vie est conforme, même si votre vie est correcte, comment ça, est-ce qu'il peut y avoir des fuites? Moi, dans ma vie, tout va bien. Mais il peut y avoir des fuites tout simplement si vous négligez. L'apôtre Paul dit, ne néglige pas le don qui est comme cette parabole où Jésus parle de la semence. Vous souvenez ? De la semence, un semeur sorti pour semer. Il y a de la semence qui va tomber sur le chemin, d'autres parmi les endroits, il y a des cailloux, des pierres, l'autre des roches, d'autres parmi les endroits où il y a des épines et dans la bonne terre. Et quand ça tombe sur le chemin, qu'est-ce qui se passe ? Les oiseaux du ciel viennent et enlèvent cette semence tout de suite. Les oiseaux du ciel, dans le contexte, et Jésus nous le dit, c'est le diable, le fils du diable. Et si on ne garde pas ce que Dieu nous a donné, oh, le diable, d'une manière ou d'une autre, d'une manière subtile ou pas, va faire en sorte pour que ça disparaisse. Si vous gagnez un gros montant d'argent et que vous le laissez traîner quelque part, il y a de fortes chances que vous ne le retrouviez pas. Mais si pour vous c'est important ce que vous avez, vous n'allez pas le laisser traîner. Vous allez veiller dessus pour être sûr qu'on ne vous le vole pas. Pour être sûr qu'on ne vous le prend pas, pour ne pas l'abandonner, pour ne pas le perdre. Eh bien, si ce qu'on reçoit de Dieu, le trésor que l'on a en lui, on considère que c'est important, on ne va pas le laisser traîner, on ne va pas être négligent, mais on va au contraire le garder, le serrer, serre sa parole sur ton cœur, afin de ne pas pécher contre lui. On va le garder, veiller dessus. On va le repasser en nous. Souvenez-vous de Marie. Les bergers sont venus dans les tables, les bergers sont venus pour adorer, ils ont entendu les anges, ils sont venus là, et Marie réalise qu'il se passe quelque chose, que la gloire de Dieu est en train de se manifester, elle voit là pour l'instant qu'un enfant, qu'un bébé, elle sait, parce que l'ange lui avait parlé, et il nous dit encore une fois que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie n'a pas perdu, n'a pas oublié, mais a gardé. Et comment elle les a gardés ? En les repassant dans son cœur, en les méditant. Quand on reçoit quelque chose de bon de Dieu, gardez-le, repassez-le sur votre cœur. Quand Dieu vous fait une promesse, ne l'oubliez pas, souvenez-vous-en, gardez-la, repassez-la sur votre cœur, parce qu'elle s'accomplira, ça vient de Dieu. Quand Dieu vous parle, vous fait du bien dans sa présence, gardez cette intimité, gardez cette communion, gardez ce bien que Dieu vous a donné comme un trésor précieux. Veillez dessus, gardez-le, repassez-le sur votre cœur. Ne soyez plus des citernes crevassées. Pour ceux qui sont plus anciens dans l'Église, qui ont connu des moments de bénédiction dans cette Église, non ? Le Seigneur a déjà béni. Mais si on avait gardé, franchement, si on avait gardé tout ce que le Seigneur avait donné, comment on serait aujourd'hui ? Si des fois on dit, Seigneur, on a besoin de ta puissance, mais elle y était, on ne l'a pas gardée. Seigneur, on a besoin de voir ta gloire, mais elle était là, et on l'a perdue. Pourquoi ? Ah, ben, on n'a pas fait attention, on s'est laissé avoir, on a été négligent. Moi, je crois que le Seigneur, dans cette année à venir, veut nous donner beaucoup. Qu'on ne le gaspille pas, qu'on le garde dans notre vie, dans notre Église. Parce qu'en le gardant, ça va faire monter le niveau de la citerne. Et le but, c'est pas de dire quand ça arrive, on arrête. Non, continue encore. Mais pourquoi ? Pour que ça déborde. Que ça déborde sur ceux qui sont autour de nous. Et que non seulement celui qui vient à nous puisse être désaltéré, mais qu'on puisse aller vers eux et leur apporter tout ce que le Seigneur nous a donné. Je vais inviter les musiciens à venir et conclure avec ce dernier verset, 1 Thessaloniciens 1:5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec Esprit Saint, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignoriez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, l'évangile que nous vous avons prêché, c'est pas que des mots, c'est pas que des paroles, mais c'est avec puissance. C'est avec l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous voulons au milieu de nous. Pas un évangile qui soit des mots et des paroles seulement, mais un évangile avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et le Seigneur nous a déjà donné, et nous le donne, et nous le donne encore, que nous puissions garder précieusement tout ce que le Seigneur nous donne, et que ça, en nous, eh bien, se manifeste. La puissance de Dieu, elle est là. Gardons-la. Et laissons-la grandir au milieu de nous. Laissons l'Esprit nous remplir, nous visiter, et que notre coupe déborde. Alléluia.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.